Bonsoir et bienvenue dans Cœur Noir Tripalium. On est le 5 juin 2022 et on est à l'antenne de Radio Dio pour l'émission de la CNT. Du coup, c'est Écho des Luttes et ce mois-ci, on va vous faire des retours sur quelques rassemblements, manifestations, une grève de copines saisonnières qu'on va essayer d'appeler au téléphone. Et on a des infos agenda à vous passer, des conseils de lecture. On va voir tout ce qu'on peut faire rentrer dans l'heure qui nous attend. Alors, du coup, pour l'écho des luttes de ce qui a déjà eu lieu, on a pu assister au rassemblement qui a eu dimanche dernier à Lyon. Qui est un rassemblement à l'appel de l'association IDIR, Espoir et Solidarité contre les violences pénitentiaires. Et c'était un rassemblement qui avait lieu pour la deuxième année, un appel national, donc il y a quelques autres villes où il y avait des rassemblements. Et donc là, à Lyon, il y avait un rendez-vous Place Bellecour pour des prises de parole, il y avait de l'affichage. Et des tracts qui ont été distribués avec quelques échanges avec les passants qu'il y avait sur la place. Et je vais vous lire le tract et les revendications des bouts des revendications du collectif. Donc, nous ne voulons plus de violence de la part de l'administration pénitentiaire. Nous ne voulons plus de morts en prison. Nous voulons la fermeture des quartiers disciplinaires et des quartiers d'isolement. L'association IDIR Espoir et Solidarité a été créée suite au décès de IDIR, au mitard de Corbas, en septembre 2020. Nous appelons pour la seconde année à organiser le dernier dimanche du mois de mai une grande mobilisation à l'échelle nationale contre les violences pénitentiaires et les morts en prison et pour la fermeture des mitards et des quartiers d'isolement. En prison, les violences de la part de l'institution et du personnel sont nombreuses et se passent généralement dans le silence. Il est très difficile pour les détenus de faire respecter leurs droits, car la justice est souvent complice de l'administration pénitentiaire. Les morts en prison se succèdent sans que rien ne change. Parfois, il s'agit d'un refus clair de l'administration de soigner les détenus malades. Parfois, des détenus meurent dans des incendies de cellules, qu'ils ont provoqués car ils ont très peu de moyens pour se faire entendre. La violence de l'enfermement amène au désespoir, et ce sont ces conditions insupportables qui poussent de trop nombreux détenus au suicide. Parfois, il s'agit de meurtres qui sont maquillés en suicide. Le mitard et les quartiers d'isolement sont des lieux faits pour briser les détenus, et ce sont les endroits principaux où ont lieu les violences et les morts, car ils sont à l'abri des regards. L'isolement est depuis longtemps considéré comme une torture. Les détenus ne sont pas de simples numéros d'écrou, ils ont le droit à la considération, et leur vie compte. Nous voulons que tout cela cesse. Donc c'est les revendications portées par l'association et on peut retrouver une pétition pour la fermeture des mitards sur le Facebook de l'asso, donc IDIR Espoir et Solidarité, et les infos pour les suites de l'enquête sur la mort d'IDIR et les événements à venir organisés par l'association. Pour les retours d'événements qui ont eu lieu récemment à Saint-Étienne-les-Environs, il y a aussi deux camarades qui sont là avec moi en studio ce soir et qui vont nous parler de la manifestation qui a eu lieu hier à Saint-Étienne.
Bah, du coup, hier, il y a eu la manif Antifa à Saint-Étienne. C'était organisé en partie par le comité Antifa, il me semble.
Ouais, c'est ça.
C'était super stylé, vraiment.
Grave.
Moi, personnellement, j'étais contente parce que j'ai revu des potes que j'ai pas vu depuis longtemps, etc. Mais l'idée principale qui en est ressortie, c'est que vraiment, ça faisait plaisir, que c'était bon enfant, que c'était joyeux, qu'on était tous et toutes ensemble. C'était vraiment agréable.
Ouais, et puis en plus, il y avait quelque chose de vraiment plaisant dans cette manif. C'est que la plupart du temps, quand on a des manifs Antifa dans de nombreuses villes, c'est des manifs en réaction à des actions que font les FAF, ou bien parce qu'ils font un rassemblement, ou bien parce qu'il y a eu une agression, qu'il y a un élu fasciste, ou en tout cas un candidat fasciste qui se déplace dans certaines localités. Du coup, souvent, les mobilisations antifa, elles viennent en réaction. Et là, pour le coup, c'était pas le cas. Et c'est vrai que c'était, mine de rien, ça faisait une petite différence. Après, je dis ça, mais il y a toujours des raisons de se mobiliser parce que le fascisme, il n'est pas là un jour, il ne disparaît pas le lendemain, il est tout le temps là, il est partout. dans les outils de pouvoir, dans les outils de répression, et puis chez les groupes, les groupes de FAF militants. Donc en fait, il y a tous les jours des raisons de se mobiliser, mais là, au final, c'était vraiment, c'était vraiment juste par volonté de remontrer et de réaffirmer le caractère antifasciste de Saint-Étienne, qui a toujours été très fort, et autant dans le monde militant que même dans le milieu associatif, dans le milieu culturel, c'est quand même très très présent à Saint-Étienne. Et du coup, c'était plaisant de se faire une manif où il n'y avait pas trop de pression d'avoir des faf en face, pas de pression d'avoir du coup des cordons de police qui séparent et qui du coup vont forcément taper sur les antifas.
Moi, j'avais entendu dire qu'il y avait eu un appel des Zemmouriens à faire un rassemblement à Jean Jaurès.
Ouais, mais justement, du coup, ce qui est assez marrant, c'est que en fait, il y a du coup Joseph Roche-Lemagne, qui est un candidat reconquête en suppléant sur une des listes aux élections législatives, qui est depuis déjà un petit moment bien repéré comme un des cadres du mouvement reconquête dans la Loire, qui du coup a réussi, c'est pas le seul, hein, mais en tout cas lui il a été bien repéré parce qu'en fait il a un passé militant qui n'était pas forcément de ce bord-là, notamment pendant les Gilets jaunes où il était très actif, où il y a même plusieurs assos de gauche qui l'ont aidé quand il avait des poursuites judiciaires, quand il a été en prison, etc. Des collectifs anti-rep qui étaient venus en aide, donc c'était quelqu'un qui était déjà un peu connu, était aussi connu sur le milieu du stade à Saint-Étienne, et en fait il a complètement vrillé, il est complètement parti dans la campagne d'Éric Zemmour. Et puis donc il a eu des postes, il a essayé de monter et c'est ce qu'il a fait. Mais en tout cas, il est quand même, lui, c'est, il est quand même très virulent, très accro à la violence. Et du coup, quand il y a eu l'appel Antifa, lui, cette fois-ci, c'est lui qui s'est dit, tiens, en réaction, les patriotes et les nationalistes de Saint-Étienne, on va se mobiliser contre l'appel Antifa. Son appel, en fait, il a publié ça pendant 2-3 heures sur Facebook et puis avant de tout supprimer. Donc, je pense, on pense qu'il a dû se faire retomber dessus par les équipes de Reconquête qui ont dit non, mais tu vois, t'as complètement craqué, faut pas faire ça. Surtout juste avant les législatives. Et d'ailleurs, ils ont bien fait parce que sinon, une manif nationaliste à Saint-Etienne, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin, je me souviens même pas qu'il y en a eu réellement, à part 2-3 fois quand des candidats pouvaient se déplacer. Mais voilà quoi, genre ça, c'était complètement incrédible, mais en tout cas ça montre quand même, ça mettait quand même une petite pression de se dire il y a quand même cette menace là du camp nationaliste Saint-Étienne, même s'il est infime et complètement ridicule face à la force du mouvement de gauche, on va dire, mais il y avait quand même ça, donc il y avait quand même ce petit truc de, on avait envie de, en plus du coup encore plus envie de se mobiliser pour réaffirmer que la rue elle était à nous et pas à eux quoi.
Mais justement ça a fait plaisir, moi je l'ai su pendant la manif que du coup ça avait été, leur contre-manif avait été annulé, et ça fait vraiment plaisir sur le coup de se dire ah bah chais, vous avez voulu faire un truc, ça a pas fonctionné, ça a fait flop, et en face c'est nous qui sommes dans la rue quoi.
C'est clair, c'est plaisant.
Et ça s'est déroulé comment alors, du coup, cette manif ?
C'est parti de Place du Peuple. On a été jusqu'au centre de la région, il me semble. Mmh. Et il y a des camarades qui ont, depuis le toit, ont déroulé...
Un énorme tifo.
Ouais, voilà, c'est ça. Mmh.
Il y avait un énorme...
Tifo, c'est une banderole, c'est ça ?
C'est ça, voilà, un tifo, c'est vraiment une immense banderole qu'on retrouve dans les stades, par exemple. Et du coup, là, c'était un peu... techniquement, c'est la même chose, c'était vraiment banderole un peu plastique et tout, mais... Et du coup, le comité Antifa avait préparé cette petite action d'agit-prop, et ça a bien marché, quoi. C'était
trop stylé.
C'était classe.
Après... Et c'était quoi qui était écrit dessus ?
Du coup, il y avait un gros mort au fascisme avec une panthère noire qui vient manger une croix celtique, qui a une croix celtique entre ses crocs. Voilà, la panthère noire, on sait d'où ça vient. Ça vient de... Ça vient de... Saint-Étienne, la panthère noire, c'est un logo historique de la CSE. Donc voilà, à Saint-Étienne, que t'aimes le foot ou pas, t'es jamais vraiment si loin. Mais bon... Enfin, ça peut se rediscuter, mais voilà.
Moi, sur le coup, j'ai un peu flippé parce que j'étais pas au courant de l'action et je savais qu'il y avait des faf un peu dans le coin. Je me suis dit, oula, mais Est-ce que c'est nos camarades ou pas? Qu'est-ce que c'est écrit dessus? Attention!
Est-ce que c'est Génération Identitaire qui ressort une banderole?
Ouais, voilà, justement, j'avais cet événement en tête. Je me suis dit. Mais au final, une très bonne surprise.
Mmh. Ouais, non, et puis en plus, alors je sais pas si ça a été réfléchi comme ça, mais en plus, je trouvais que c'était cool sur l'hôtel de région, notamment face aux nombreuses dérives racistes que peut faire Laurent Wauquiez tout au long de. Qu'il a pu faire tout au long de son précédent et de son mandat actuel. Ne serait-ce que là sur les affaires du Burkini à Grenoble, il a fait des sorties mais ignobles. Du coup, en plus, c'était pas mal d'avoir de, je sais pas si c'était vraiment prévu par rapport à ça, je suis pas si sûr, je pense que c'était plus au niveau du spot et du bâtiment, mais en tout cas c'était quand même trop stylé d'avoir ça ici, quoi.
Il y avait du monde et le reste de la manif s'est bien déroulé.
Bah ouais, carrément, franchement, il y avait pas du monde comme dans des grosses manifs avec tous les syndicats, et puis il y avait pas non plus autant de monde que dans d'autres manifs Antifa qu'on a pu faire auparavant.
Moi, j'étais au tout début à Place du Peuple, il y avait quand même un bon paquet de monde, ouais, je pourrais pas quantifier, mais
je pense qu'on était bien 200-250 facilement. Mais en fait, faut se dire que c'est pas mal pour une manif qui sort de nulle part. Enfin, qui sort de nulle part, ça sort pas de nulle part, l'antifascisme à Saint-Etienne, ça coule de source. Mais justement, dans ce truc...
C'était revendicatif, c'était pas en réaction.
C'était une action, c'était pas une réaction. Et du coup, c'était quand même hyper fort de se retrouver quand même à 200, avec aussi des camarades qui venaient d'autres villes. Il y avait des camarades... bien sûr, il y avait des gens autonomes qui venaient pas de groupe, mais t'avais des camarades de la Jeune Garde Lyon, t'avais des camarades de l'AFA Grenoble, t'avais des gens aussi, du Puy-en-Velay, du Rafale du Puy-en-Velay. Je les ai pas trop croisés, mais en tout cas, je crois qu'ils étaient censés venir. En tout cas, voilà, il y avait des gens qui se sont mobilisés aussi d'autres villes.
Mais même si c'était pas en réaction à un truc précis, quand même, moi, le ressenti que j'avais, c'était qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là parce que le climat ambiant et les propos racistes, l'ambiance raciste, l'ambiance fasciste, pèse beaucoup pour beaucoup de monde, et que du coup, ça donne envie de venir réaffirmer des positions antifascistes.
Mmh. Bah, c'est clair. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y avait pas le jour J. Une opération fasciste ou fascisante à Saint-Etienne, mais en tout cas, le climat fait que oui, t'as raison, c'est un truc général où il y a besoin de ces moments-là de revendications antifascistes et radicales. D'ailleurs, il y avait aussi on fait pas d'antifascisme sans anticapitalisme, et puis il y avait vraiment aussi ce message-là, autant dans le slogan que dans les messages du début de manif, et puis aussi sur la fin de manif, il y avait une banderole qui a été déployée. Pareil sur un pont, d'une place de la ville, sur le pont de Carnot. Une grande banderole avec un petit craquage de fumée assez stylé au passage, mais qui disait fascisme, capitalisme, les deux têtes d'un même monstre.
Excellent. Du coup, ça a été jusqu'à Carnot. Ça a duré longtemps, Carnot. Ça a été loin.
Ouais, ouais, on a bien marché quand même. Ça me rappelait un peu les géjonades d'autrefois. Mais non, c'était cool.
Okay. Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais, Romain, tout à l'heure, sur les gens d'autres villes qui sont venus, bah, je pense que, de façon plus locale, c'est déjà arrivé que des groupes stéphanois, ils montent sur des manifs au Puy, etc. etc. Mmh. Et je trouve ça vachement intéressant de construire, dans une échelle plus grande, une solidarité entre nos villes à nous. Ça fait toujours plaisir de voir des camarades qui viennent d'autres villes et de créer une solidarité entre nous.
Bah, c'est clair. Surtout qu'en vrai, à Saint-Etienne, on a pour le coup, un comité antifa qui est assez présent, mais qui en tout cas va pas. Enfin, je sais que à l'échelle nationale d'antifascisme, il y a plein d'embrouilles qui des fois sont fondées, mais qui la plupart du temps sont stériles et sont surtout des conflits d'ego. Et je trouve qu'à Saint-Etienne, c'est jamais parti dans ce sens-là d'aller soutenir tel groupe ou tel groupe dans une autre ville et du coup de casser un truc. Il y a vraiment une sorte de en vrai. Synthé, c'est con, mais on aime bien tout le monde nous aime bien, et on est là pour faire de l'action, et du coup, ça marche bien à chaque fois, quoi. Donc, on arrive autant à se déplacer sur des événements à Lyon, qu'à Grenoble, qu'à Paname, mais avec la mesure du possible, parce que voilà, t'as pas forcément un budget essence illimité.
Nickel, bah merci pour ce retour, et après avoir été à Lyon et à Synthé pour les dernières actions, rassemblement, manifestation, voulait faire écho à une grève organisée plus dans le sud par des camarades qui sont en saison là-bas. Et du coup, on va leur essayer de leur passer... Enfin, c'est elles qui vont appeler normalement si elles ont bien le message et elles vont pouvoir nous raconter comment ça s'est passé et qu'est-ce qui a motivé leur grève et comment voilà si elles appellent, on vient de leur envoyer le message et on espère que ça a marché en technique comme il faut.
Ah, c'est les comment ils disent à la radio, les aléas du direct. Voilà.
Ah voilà, ça sonne normalement.
Attention, c'est parti. Dans 3.
Roulement de tambour. 2,
1. 1. 1. Et.
C'est salut parti. Radio 2, salut FNT.
Salut,
coucou, ça marche, c'est trop bien. Eh ben, bonsoir, bienvenue à Radio Dio, Cœur Noir Tripalium. Et du coup, on vient de présenter l'appel en disant que les camarades dans le sud en saison ont organisé une grève et qu'on allait avoir un appel pour avoir un peu de détails de comment, pourquoi. Voilà. Donc c'est à toi si jamais si tu veux présenter et raconter comment ça s'est passé.
Alors, du coup, on travaillait en tant que ouvrière agricole dans une exploitation arboricole. On faisait l'éclaircissage des pommiers. Il y avait genre une vingtaine d'ouvriers, ouvrières. Voilà, à peu près, en termes de tiers, un tiers d'ouvrières roumaines, un tiers d'ouvrières espagnoles et un tiers d'ouvrières françaises. Les conditions de travail étaient vraiment nulles. Les conditions d'hébergement aussi, en fait, c'était très précaire, avec genre des toilettes dégueulasses, une douche pour tout le monde, mais qui n'était pas vraiment une douche de travail, qui était en fait la douche de la maison que louaient les ouvriers roumains. Donc les consignes, c'était pour aller vous laver, vous allez chez eux. Ce qui n'est pas super cool pour les personnes dont la maison est déduite de leur salaire. À ça s'ajoutait une ambiance de très autoritaire, de flicage et tout. Et même si ça reste un travail pourri d'être saisonnier, saisonnière agricole, et même si on s'attend pas à des super conditions en venant, là on était plusieurs à avoir l'expérience des saisons et à trouver que vraiment c'était abusé. Et je te laisse continuer. Le déclencheur, ça a été quand ils ont oublié de l'argent sur nos bulletins de salaire.
Aïe, aïe, aïe.
Et oui, donc un fameux jour, on reçoit notre fiche de paye et évidemment, on compte nos heures pour vérifier qu'il manque rien. Et là, malheur, il y a un jour férié qui, alors normalement, dans la convention collective agricole, c'est minimum 3% du salaire mensuel pour le jour férié où on a travaillé le jour donc, d'avant et le jour d'après. Et ce jour n'avait pas du tout été rémunéré. Donc, on va les voir pour leur expliquer que potentiellement, il faudrait revoir ensemble, recompter les heures, parce qu'on a l'impression qu'il manque quelque chose. Ce à quoi répond le patron, vous êtes viré, en fait, concrètement. Alors, Elsa a prononcé le mot code du travail. Il a fait « Ok, tu prends ton fourgon, tu dégages. »
Ah ouais, quand même.
Du coup, heureusement, il y avait d'autres collègues. Il y a deux autres collègues qui se sont ralliés directement à la cause et qui ont dit « En fait, non, on est d'accord avec elle. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? À un moment, vous pouvez pas nous virer comme ça. » Et du coup, il leur a dit « Ok, vous dégagez aussi ». Donc on était quatre virés d'un coup, sachant que c'est tout à fait illégal parce que c'est un CDD saisonnier. Donc déjà, il y a un préavis et ça doit être justifié par une cause grave qui, là, pour le coup, est pas du tout valable. Donc après ça, on décide d'essayer de parler entre nous et de s'organiser un peu parce qu'on n'allait pas rester là-dessus, clairement. Et qu'il y avait plein d'autres choses en plus de cette affaire-là qui nous posait problème finalement. Et donc on décide le lendemain de faire grève plutôt que de partir. Et du coup, ce à quoi aussi quand on annonce la grève, le patron nous dit « Prends ton fourgon, connasse, et retourne à Saint-Étienne. »
Fada.
On continue la grève. Au bout d'une heure, ils nous disent « Ok, on vous file en cash aux 15 balles là. » Et vous dégagez. Mais finalement, en fait, on était tellement énervés et remontés avec des revendications qui s'amassaient, enfin, qui s'accumulaient au fur et à mesure du temps, qu'on a décidé de continuer et reconduire la grève même au lendemain. Et on a appelé Sud-Ouest. Un journaliste est venu et a été hyper réactif, est venu sur place, a pris des photos même du point d'eau qu'on a. Donc le seul point d'eau, c'est un vieux tuyau dans un hangar dégueulasse, plein de bactéries. Enfin vraiment, les règles d'hygiène sont absolument pas respectées pour aucun truc concrètement qu'il y avait là-bas. Donc il vient, il prend des photos. Plutôt, ça s'est bien passé, c'était chouette. Et dans l'article qui est sorti le jour même, c'était incroyable parce que la patronne, du coup, qui a été interviewée aussi, c'est complètement vendue, en fait. Et c'est complètement balancé. Elle a même dit dans le journal, on les a virés pour mauvaise ambiance. Du coup, en fait, on a la preuve dans un journal qu'ils nous ont virés pour des causes non valables et que c'est un licenciement nul et abusif. Donc, plutôt, c'est incroyable.
Mais, enfin, voilà, même plus que nul, en fait, c'est pas légal. Donc, je veux dire, je sais pas trop dans quel monde il vit. Ça doit encore être des patrons qui se sentent tout puissants. Enfin, de toute façon, vu les circonstances que vous nous décrivez, ça a l'air clair. Mais du coup, vous en êtes où aujourd'hui? Est-ce que vous continuez de faire grève sur place? Qu'est-ce que vous envisagez?
Du coup, la saison devait de toute manière se finir peu après. Normalement, là, ils finissent les champs mercredi. Donc, on était quatre ouvrières à tenir le piquet de grève. Quatre françaises, parce que il y a des collègues qui soutenaient fortement le mouvement et qui étaient carrément d'accord avec nous, mais matériellement, c'était plus compliqué pour elles de se mettre en grève. Donc, les quatre personnes qui tenions le piquet toute la journée, on se dit qu'on n'avait pas forcément la foi de rester le week-end sur l'exploitation, parce que du coup, on dormait sur place avec nos fourgons, quoi. Qu'on n'avait pas forcément la foi de rester le week-end pour tenir un piquet deux jours de plus, et qu'en fait, le plus gros de la pression, on l'avait mis en visibilisant ça, en faisant parler la presse, en foutant le bordel, et que de toute façon, vu que la saison a fini dans 3 jours, on n'allait pas pouvoir leur mettre suffisamment la pression pour qu'ils nous lâchent tout, en mode « Ah là là, vous avez raison, accord de fin de grève, on vous file des thunes. » Enfin, l'idée, c'était pas autant de leur foutre la pression pour cette saison-là que de leur foutre la pression de manière générale. En fait, un patron qui nous a dit explicitement ouais, le code du travail, ça fait 40 ans que je fais des saisons, on m'en a jamais parlé. En fait, il se prétend au bout d'un moment qu'il arrête de se sentir tant à l'aise et qu'il arrête de faire ce qu'il veut de ce qu'il veut de ses ouvriers, d'abuser de la précarité, enfin d'utiliser la précarité de ses ouvriers pour
C'est clair, et bravo à vous, et c'est chouette que vous ayez pu être un peu formée, informée, et du coup être réactive et savoir comment faire pour appuyer les moyens de pression, faire appel aux médias. Et il me semblait que peut-être, tu disais à un moment que ça avait fait des échos, non? Que ça, au-delà de là où vous bossiez, qu'autour, ça en a un peu parlé?
Ouais, du coup, le fait... Ça a été médiatisé, puis il y a le truc aussi que assez vite, pour avoir des infos un peu sur la situation locale, on a contacté l'Union départementale CGT et l'Union locale la plus proche, qui ont été assez aidants. Et du coup, via leur réseau, ils ont diffusé aussi pas mal concernant la grève. Et puis après, il y a aussi un truc, c'est que le monde saisonnier, mine de rien, on n'est pas forcément si nombreuses que ça, en tout cas en française, dans l'agricole, à tourner, nanana, et c'est des réseaux qui sont assez forts et qui sont... Enfin, les infos peuvent vite circuler, quoi.
Et est-ce que vous avez eu des contacts avec l'asso de travailleurs étrangers saisonniers qui s'appelle Codetrace, je crois, ça vous dit quelque chose?
Non, pas du tout.
C'est, il y a un article dans le dernier numéro de Nunatak, c'est une revue des luttes des montagnes que connaissent peut-être des gens. Mm-hmm. Mais du coup, il y a un article sur cet assaut. Voilà, je glisse l'info et bon, bah, s'il n'y a pas eu de contact de prix là cette fois, j'imagine que c'est pas non plus une asso qui rayonne partout et que les contacts se font pas toujours. Mais déjà, si vous avez pu un peu arriver à faire parler de vous au-delà de juste l'exploitation, c'est super.
Bah, et puis là où moi j'étais en mode waouh, c'est trop forte, c'est que en vrai, déjà. Bah c'est vraiment pas évident parce que dans le milieu agricole, déjà faut le savoir, moi je l'aurais pas su, j'aurais pas forcément pris connaissance, je pense, des conventions collectives, ni même, je pense que comme beaucoup avant vous, je me serais fait juste arnaquer par mon patron. Et ouais. Derrière, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas beaucoup de grèves ou de moments où les patrons ils se retrouvent face à leurs responsabilités dans le monde du travail agricole. Et qu'au contraire, c'est souvent plus les saisonniers et saisonnières qui se retrouvent baladés. Du coup, franchement, c'est trop classe. Voilà. Je tenais à vous le dire, c'est trop classe. Ça fait... En plus, on peut le dire, mais vous êtes relativement jeune. Donc déjà, des jeunes qui osent venir face à leur patron, patronne, et leur réclamer des droits, c'est rare, mais dans le milieu agricole, c'est encore plus rare, donc bravo, c'était top.
Merci.
Merci à vous, ça vend du rêve, ça donne envie de faire grève, vive la grève.
Et ouais, merci pour le retour, et je sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, un message avant de continuer l'émission?
Bah, un truc qui m'a fait grave plaisir, c'est que, en fait, on a très vite et très bien vu parmi les collègues comment, en fait, d'une attitude de résignation générale, en une seule journée, quand on a commencé à parler entre nous et à se dire il faut faire des trucs, il faut faire la grève, nanana, en fait, on est passé genre en une journée d'une atmosphère de résignation générale à une atmosphère de... les collègues qui continuent à travailler étaient vraiment dans une démarche de prendre le plus de pauses possible, ralentir au maximum le travail, et du coup, dans une démarche d'opposition générale au patron. Et il y a plein de collègues pour qui c'était le premier mouvement de grève, en fait, et qui nous ont dit « Ah bah, c'est trop cool et tout, je découvre un truc, quand je vais rentrer en Espagne, je vais me syndiquer », ou des trucs comme ça, et ça fait vraiment trop plaisir à entendre, en fait, et ouais... Ça peut... On y prend vite goût, quoi.
Yes, trop bien. Eh ben...
Mais moi, j'ai encore une petite question. Je ne sais pas si vous y avez déjà du coup réfléchi ou parlé entre vous, ou s'il y a des envies plus personnelles. Mais est-ce que du coup, vous voulez maintenant que, enfin, vu que la période du coup d'embauche est finie, si je comprends bien, ou et que en tout cas vous êtes plus sur l'exploitation. Est-ce que vous comptez donner suite à tout ça, en sachant, vu que le patron était en parfaite illégalité, est-ce que vous avez l'énergie, est-ce que vous voulez voir ça aussi, checker avec votre syndicat pour avoir potentiellement de l'appui et réfléchir à une contre-offensive, ou est-ce que vous n'y avez pas forcément encore
Si vous pouvez en parler.
C'est un truc qui a été évoqué après, étant donné qu'on n'a pas encore pris de décision collective là-dessus, ouais, je préfère pas donner de réponse à la radio.
Ouais, pardon, c'était vraiment une question de journaliste. C'est mon côté journal militant qui ressort là.
Mais en tout cas, ce que vous avez fait est hyper motivant. Et c'est vraiment super beau ce que vous faites. Ça donne de l'énergie pour nos luttes à nous et pour les luttes d'ailleurs, de voir ce que vous pouvez faire.
Grave. Merci beaucoup à vous. Et bonne suite, et à bientôt à Saint-Étienne, peut-être.
Ouais.
Merci et bonne soirée, et à très bientôt.
Ciao, ciao.
Et nous, on vous laisse et on va faire une petite pause musicale en studio. Et on va mettre une musique qui s'appelle Unity, pour parler d'unité dans les luttes et de solidarité. C'est Queen Latifah.
C'est très à propos.
UNITY, that's a unity. UNITY. together, pull a girl, a picture, a hoe. Trying to make a sister feel low. You know all of that got to go. Now everybody knows there's exceptions to this rule. I don't be getting mad when we playing, it's cool. But don't you be calling me out my name. I bring breath to those who disrespect me like a dame. That's why I'm talking. One day I was walking down a block. I had my cutoff shorts on, right? Cause it was crazy hot. I walked past these dudes when they passed me. One of them felt my booty, he was nasty. Yeah. I turned around red, somebody was catching the rat. Then the little one said,
yeah, me, bitch.
And laughed. Since he was with his boys, he tried to break fly. I punched him dead in his eyes. Said,
who you calling a bitch?
I guess I fell so deep in love, I grew dependency. I was too blind to see just how it was affecting me. All that I knew is you was all the man I had. And I was scared to let you go, even though you treated me bad. But I don't wanna see my kids see me getting beat down by daddy smacking mommy all around. You say I'm nothing without you, but I'm nothing with you. A man don't really love you if he hits you. Yeah. This is my notice to the tool, I'm not taking it no more. I'm not your personal whore, that's not what I'm here for. Ain't nothing good gon' come to you till you do right by me. Brother, you wait.
Who you calling a bitch?
Radio Dio, à nouveau, Cœur Noir Tripalium. On est dans les studios comme tous les premiers dimanches du mois, ou presque, quand on arrive. Et après avoir fait un retour sur quelques temps militants qui se sont déroulés dernièrement, le temps est venu de se projeter dans les actualités à venir, les invitations, les trucs programmés et du coup on va continuer à voyager un peu parce que là on voulait vous parler d'un appel qui vient de Bure, donc dans la Meuse, le lieu qui est en lutte contre un site d'enfouissement de déchets nucléaires dont on a déjà parlé à l'occasion sur cette radio. Et il se trouve que là une nouvelle étape de la lutte, c'est défendre la gare de Luméville qui est pas très loin de Bure et qui a aussi un espace habité par des militants, militantes antinucléaires. Et là, il y a un appel à venir empêcher la construction d'une voie ferrée qui amènerait, si elle était construite, des déchets nucléaires à être enfouis. Et je vais aussi vous lire cet appel de la gare qui démarre. Donc, défendons la gare, empêchons la construction de la route Castor. La gare de Luméville, en 2004, le site de l'ancienne gare de Luméville a été racheté par des militantes antinucléaires. La gare fait partie de la future ligne ferroviaire pour le transport des déchets nucléaires vers le projet de dépôt définitif Cigéo, près de Bure. Au cours des 18 dernières années, la gare a été gérée par des groupes et des collectifs très différents, mais a eu tendance à représenter globalement la partie la plus radicale, écologique, anticapitaliste du mouvement antinucléaire. Au fil des années, la gare a été à plusieurs reprises le lieu d'événements qui se sont imprimés dans la mémoire collective du mouvement, comme des moments importants. Même si tout n'a pas toujours été beau, de nombreuses personnes ont appris à aimer la gare pendant cette période comme un lieu important de leur vie, comme un lieu d'expérimentation politique, comme un terrain d'aventure ou comme un foyer. Mais la gare est avant tout une chose, une barricade juridique et physique dans la lutte contre le projet CIGEO. Situation actuelle. Avec la conclusion de la déclaration d'utilité publique, la lutte pour la gare entre dans une nouvelle phase. La fin de la déclaration d'utilité publique permet l'expropriation de 6000 hectares de terrain qui font obstacle à la construction du projet. La procédure est facilitée par le décret Opération d'intérêt national de fin 2021 qui déresponsabilise le niveau municipal dans les décisions sur les projets d'infrastructure dans la zone d'aménagement du sud de la Meuse. Et ces décisions relèvent désormais essentiellement de la préfecture. Avant même la fin de la DUP, l'ANDRA a annoncé qu'elle commencerait la construction de la future ligne Castor au plus tard en 2024. La gare risque donc d'être confrontée à un conflit juridique avec l'ANDRA au sujet du terrain dans un avenir proche. Cela pourrait, dans le pire des cas, aller très vite et son issue est comme prédéterminée, tout comme les audiences publiques ridicules sur la DUP. Nous nous opposons toujours légalement à l'expropriation, non pas parce que notre foi dans l'état de droit est si grande, mais pour mettre des barricades physiques à côté de celles en papier. Malgré tout l'amour que nous portons à cet endroit qui a été ou est encore le foyer de tant d'entre nous, nous ne faisons pas face à la situation actuelle uniquement avec peur et désespoir. Le destin de cet endroit a toujours été d'être un point stratégique dans cette confrontation et, en fin de compte, le lieu d'une confrontation politique. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas l'intention de partir volontairement. Que nous célébrions ensemble le 20e anniversaire de ce projet résistant à la gare en 2024, ou que nous ajoutions simplement 20 minutes d'émeutes épiques à la mémoire collective du mouvement, cela dépend principalement de nous. Ce que nous prévoyons de faire maintenant, nous pensons qu'il est temps de dire aux nombreuses personnes différentes liées à ce lieu, nous aurons besoin de vous pour défendre la gare, peut-être déjà bientôt, et nous aurons besoin de vous pour faire obstacle au projet CIGEO dans de nombreux autres endroits. Mais nous aurons besoin de plus encore, de nos amis et des vôtres. Et nous devons trouver de nombreux nouveaux alliés. Il y a de nombreuses façons de nous soutenir. Vous pouvez commencer à créer des comités locaux de soutien et de défense dans vos endroits. Vous pouvez organiser des dons de matériel, des actions de solidarité ou des tournées d'information. Vous pouvez diffuser cet appel. Bien sûr, le mieux serait que vous veniez. Créer une situation d'occupation permanente. Nous ne voulons pas attendre que les moyens légaux de résister à l'expropriation soient épuisés pour être des actrices et des acteurs actifs et actives. Nous vous invitons à nous rejoindre pour préparer la défense de la gare et la prévention de la construction du chemin de fer. Malgré le statut juridique actuel du terrain, nous voulons passer à considérer la gare comme un lieu d'occupation permanente qui ne dispose actuellement que d'une forte défense juridique. La gare est actuellement gérée en autogestion par un collectif ouvert. Une fois par semaine, il y a une réunion où les projets autour de ce lieu sont discutés et décidés. Cette réunion est ouverte à toute personne qui vit là, utilise le lieu ou se sent liée à la gare d'une autre manière. Nous vous invitons à vous installer à la gare de façon temporaire ou permanente, dès maintenant. Le terrain offre beaucoup d'espace pour les caravanes, les camions, les cabanes, les possibilités de tentes, en plus des trois bâtiments principaux. Ces dernières années, beaucoup d'énergie a également été dépensée pour rendre l'endroit plus confortable et améliorer les conditions de vie sur place, ainsi que pour construire l'infrastructure qui permet d'accueillir et de nourrir une foule plus nombreuse. Donc des chantiers ont commencé et on peut trouver les infos sur burburbur.info. C'était donc un relais sur cet appel à venir défendre ce lieu de lutte contre un projet abominable d'enfouissement de déchets nucléaires.
Mais du coup, moi j'ai une question. Peut-être que tu n'auras pas la réponse, hein, mais c'est une vraie gare qui est squattée du coup ?
C'est une ancienne gare. Maintenant, okay. Elle est plus active, mais du coup, il passait un train et il faudrait réaménager les voies ferrées pour que ce soit des rails qui puissent acheminer des nouveaux trains qui viendraient amener les déchets. Mais du coup, on espère bien que les rails vont rester tout à fait rouillés.
Il ferait mieux de faire des lignes. Bah. De déplacement de gens localement, quoi.
C'est sûr que d'habitude, on ne défend pas trop la fermeture des gares. Et,
ouais, bah, c'est ça.
On défend plutôt l'ouverture de nouvelles voies ferrées, les reconstructions, rénovations de rails. Mais là, C'est différent.
Ouais, c'est pas le même objectif qu'il y a derrière, quoi.
Non, c'est sûr. Ouais.
Bon, en tout cas, si je peux me permettre une transition, après le relais de Burbur Info, moi je vais relayer une info qui vient de Passa Montagna Info. Donc toute l'actualité liée aux frontières entre la France et l'Italie notamment, pas que, mais beaucoup. En gros, il y a un événement le 24, 25 et 26 juin à Turin. Donc on peut se dire, ah, bah, Turin, c'est pas juste à côté, mais en vrai, ça va, c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça, suffit de passer la frontière, c'est pas très loin, c'est comme si on allait à Paname. En tout cas, il y a un gros événement contre les frontières, justement, contre les frontières, contre les gares et contre les États. Il y a un gros appel à ce que toutes les personnes qui sont radicalement opposées aux frontières et au système qu'elles protègent puissent se rassembler pour venir échanger des pratiques, construire des perspectives communes, établir des discussions, des relations et aussi se mobiliser ensemble. Donc il y aura plusieurs événements de mobilisation sur Turin sur ces dates-là. Il y a aussi une vraie volonté dans ces événements de faire un lien entre ce qui se passe dans les situations de guerre et ce qui se passe actuellement sur les frontières, qui brasse les mêmes industries, les mêmes méthodes de répression. Donc c'est deux situations différentes, mais c'est produit par la même logique et par les mêmes personnes. Du coup, voilà, il y a ce gros week-end de mobilisation. Donc vous retrouverez toutes les infos sur passamontagna.info, passamontagna en un seul mot. Voilà, donc il n'y a pas encore le programme complet, ça devrait pas tarder à arriver dans les jours qui suivent, le programme de ce qui va se passer. Mais l'idée, c'est aussi de cibler les responsables directs de la répression sur les frontières, donc autant bien les constructeurs d'armes que les personnes se former à créer des outils de répression, etc. Donc voilà, ça va être un week-end assez chouette et conséquent en mobilisation, donc n'hésitez pas à tous te foncer à Turin. Et d'ailleurs, autour de la frontière, il y a justement un petit geste de soutien qui va se passer la semaine prochaine à Saint-Etienne. Je sais pas si...
Oui, du coup, à Bourse du Travail, 10h, 16h, 14h
ouais, de 10h à 14h.
De 10h à 14h, il y a une collecte alimentaire. Du coup, on soutient...
On soutient la lutte aux frontières et aux personnes qui en chient, quoi. Donc voilà, il y a...
Ça fait beaucoup de monde.
Ouais, ça fait beaucoup de monde, malheureusement.
On a besoin d'une grosse collecte.
Ouais, c'est ça. Mais du coup, n'hésitez pas. En plus, il y a le marché à côté, donc il fera super beau, c'est sûr. On sera super sympa. N'hésitez pas à passer, même de venir discuter. Ça sera devant la Bourse du Travail, du coup. Place Albert Thomas. Et voilà.
Vous pouvez rappeler le jour et l'heure?
Le jour, c'est... Attends, samedi prochain, je crois que c'est le 11, si je n'ai pas de bêtises. Samedi 11, de 10h à 14h. Et du coup, une collecte, collecte de nourriture. Donc, pour les personnes qui voudraient donner et apporter du soutien, c'est bien si vous pouvez privilégier tout ce qui est produits secs et conserves. C'est mieux. Ça permet d'arriver en état correct jusqu'à la frontière. Donc voilà, n'hésitez pas à passer, même si vous n'avez rien à donner, à venir donner un petit sourire, à venir échanger sur ce qui se passe à la frontière. On aura aussi du coup des tracts, des affiches sur les événements du 24, 25, 26 à Turin. Et probablement qu'à ce moment-là, on aura plus d'informations si les personnes veulent venir en savoir plus, s'il y a des personnes qui veulent s'organiser pour partir à plusieurs, etc. Voilà.
Cool, merci pour l'info. Et donc après, ces perspectives de... temps militant. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller sur les lieux de lutte et à ces appels qu'on vient de vous présenter, vous pouvez peut-être avoir un petit créneau et un petit moment pour lire des choses intéressantes et de la réflexion autour de sujets militants. Et moi, je vais vous faire du coup une petite présentation d'une BD que j'ai trouvée chouette. Qui n'est pas sans défaut complètement, mais qui est vraiment très intéressante à plein de niveaux. Ça s'appelle Resisters, et c'est une BD écoféministe de Jeanne Burgard et Aurore Chapon. C'est chez Tana Édition. Et en fait, le titre « Resisters », c'est un jeu de mots entre « résister » et « sisters », qui veut dire « sœur » en anglais. Et du coup, c'est beaucoup basé sur des mouvements collectifs de résistance et de la sororité, ou en tout cas de la solidarité. Et du coup, le 4, c'est une dystopie, donc une projection dans un monde encore pire que le nôtre, très proche, mais pas dans si longtemps, puisque c'est en 2030. Et le point de départ, bah, c'est le confinement. Et donc cette BD aborde différents thèmes, les inégalités de genre, par exemple la répartition des tâches, ou des questions d'approche de charge mentale, de gestion émotionnelle, plein de choses autour des inégalités de genre. Il y a des aspects autour des politiques sécuritaires et de la propagande d'État par les médias, par plein de biais, par la censure, etc. Il y a tout ce qui est autour de la casse sociale et la précarité des emplois, donc en particulier dans les domaines de l'éducation et de l'aide aux personnes. Et il y a tout ce qui est de l'ordre du racisme et du colonialisme dans un contexte de mondialisation industrielle, de pillage des ressources. Ça aborde aussi, et c'est intéressant dans un document écologiste, de parler de greenwashing et du fait que les thématiques écologiques peuvent être vite détournées à des fins d'intérêts privés et de spéculation. Ça parle aussi de marchandisation des corps et de plein d'autres sujets. Et du coup, on suit l'histoire de quelques personnages qui incarnent chacun et chacune des problématiques différentes et dont les parcours vont se croiser. Et il y a un chat qui est la voix off du récit et qui fait des commentaires, des analyses et des rappels historiques. Par exemple, y a un homme qui est cadre dans une usine de produits bio et qui est persuadé de travailler pour le bien de la société. Et en fait, il va déchanter petit à petit en découvrant l'aberration des procédés agricoles utilisés dans les filiales indiennes notamment, et les expérimentations génétiques douteuses de labos secrets. Il y a aussi une femme de ménage qui fait le ménage dans la boîte où il travaille. Et du coup, je voulais vous lire un extrait. Donc, c'est des passages où, en fait, les personnages parlent, s'expriment en leur nom propre. Et donc là, c'est Sandy qui parle et qui dit « Ça fait 6 ans que je nettoie les locaux d'Unibio. Mais pour la plupart des gens, je reste une inconnue, une vague ombre dans le paysage. Parfois, je me demande si je ne porte pas une cape d'invisibilité, comme dans Harry Potter. Avec les collègues, c'est devenu une blague entre nous. Ça pourrait presque être drôle si ce n'était pas aussi injuste. D'après les étiquettes habituelles, on fait partie des travailleurs précaires, des travailleuses du care, bref, des précaires, avec un jeu de mots. Personne ne nous regarde, personne ne nous voit, personne ne nous écoute, personne ne nous entend. Pourtant, en théorie, on a un pouvoir de dingue, tout repose sur nous. En un sens, on est les piliers de la société, la colonne vertébrale sans laquelle s'effondreraient les familles, les entreprises, le monde tel qu'il s'est construit. Imaginez, on fait toute grève et monsieur, le PDG, doit faire lui-même le ménage dans son bureau. Haha, impossible, l'apocalypse. Vous savez quoi ? Il paraît que pendant le confinement de l'automne 2028, monsieur Perrotin a passé 3 mois avec des habits sales. D'habitude, il va au pressing, mais là, c'était fermé et il a pas su quoi faire. Écoutez, j'en ai une autre. Imaginez, toutes les nounous du quartier gagnent au loto et du coup, elles arrêtent de s'occuper des enfants des autres. Je vois d'ici le tableau. Mais enfin, Madame Ocampo, comment on va faire sans nounou ? Vous allez vous occuper de vos enfants, par exemple ? Mais on n'a pas le temps, on travaille, nous. Désolée, c'est aussi du travail, les enfants. Voilà, c'était une petite citation d'un extrait de cette BD. Et on retrouve plein d'infos et une dimension pédagogique qui est assumée avec des chiffres, des tableaux et des statistiques, des schémas qui permettent de bien se représenter ce dont il est question et de se documenter, quoi. Et par exemple, là, il y a des chiffres qui sont donnés que je trouvais intéressant de rappeler aussi, qui sont par exemple que 97% des aides à domicile et des secrétaires sont des femmes, 90% des aides-soignantes sont des femmes, alors que seulement 16% des chefs d'entreprise sont des femmes. Et en France, du coup, 20% des membres de comités de direction sont des femmes, alors qu'elles sont 40% des cadres supérieurs, et par contre, elles sont 77% des employés. Et ce qui est intéressant, c'est que ça croise avec d'autres dimensions, et là, c'est rappelé sur le côté aussi qu'aux États-Unis, où les statistiques ethniques sont autorisées, on observe que les femmes noires gagnent 38% de moins que les hommes blancs et 21% de moins que les femmes blanches. Donc, ça rajoute au problème. Et dans les chiffres aussi sur l'aspect décolonial, il y a plus loin l'augmentation de la production de vêtements entre 1996 et 2016, c'est plus 400%. Et un vêtement de fast fashion est porté en moyenne 1,7 fois. Et le salaire moyen d'une ouvrière de textile au Bangladesh, c'est 59 euros par mois. Et sur un jean vendu, 35 euros, le salaire des ouvriers et des ouvrières représente 0,52 euros. Voilà. Donc des chiffres qui marquent un peu et qui font voilà, se représenter un peu mieux ce dont il est question. Une BD très intéressante qui montre comment les systèmes d'oppression se mélangent, se rejoignent et utilisent les hiérarchisations de sexe pour mieux asservir les femmes racisées, se servent de l'idéologie raciste pour mieux exploiter les classes populaires, migrantes ou délocaliser des filiales au fonctionnement problématique, etc. etc. Au niveau des trucs qui peuvent un peu être moins... déranger un peu, moi j'ai trouvé que le dessin était pas si... j'ai pas trop accroché avec le visuel et voilà, c'est un dessin qui est un peu particulier, qui plaît peut-être moins à tout le monde ou qui est moins habituel. Et il y a aussi tout un aspect autour d'une dimension magique dans le texte, de comment les personnages se rencontrent et un univers un peu parallèle où sont présentées les figures de l'écoféminisme. Ça fait écho à certaines approches teintées un peu d'ésotérisme dans l'écoféminisme qui moi me parle moins, mais voilà, qui font aussi partie du mouvement. Et au niveau des gros plus, y a toute une organisation internationale de femmes prolétaires dans le bouquin qui mène des actions de sabotage et de subversion. Et voilà, ça parle beaucoup d'organisation collective et c'est plutôt, malgré un univers dystopique, c'est des personnages et des parcours qui restent sur quelque chose de positif, d'encourageant et qui présente la lutte comme quelque chose qui peut faire bouger les destins individuels et bouger les lignes en général. Donc voilà, plutôt pédagogique, plutôt mainstream, mais très instructif, donc je conseille. Voilà. Et c'était le petit conseil lecture. Et on s'approche doucement de la fin de l'émission. On va écouter un dernier son avant de rappeler les contacts. Et c'est un son qui est sur le thème, après les luttes, l'été approche. On va aussi profiter de temps un peu plus festif. Mais il ne faut pas oublier tout ce qui, dans le quotidien, pourquoi on peut lutter dans le quotidien et que même les temps festifs, c'est important de faire attention les uns les unes aux autres et d'éviter d'avoir des situations de relou. Donc ça s'appelle Ça dérape et c'est une chanson de Toff et Nanoche et ça parle d'un bal. Je vous laisse écouter et découvrir.
Je dansais à ce festival d'été. Dans ma tête, tout était tranquille, un peu alcoolisé. Je dansais. Dans ma tête, tout était tranquille, un peu alcoolisé. Bouge ton boule, bouge ton corps sur le dance floor. Je tombe le pullover, j'suis bien en débardeur. J'suis une violette dans la prairie, fleurie au bord d'une rivière. J'm'arrose d'une bière, un amour m'a my body, je dansais à ce festival d'été. Dans ma tête, tout était tranquille, un peu alcoolisé. Je dansais, dans ma tête, tout était tranquille, un peu alcoolisé. Je dansais. Tu dansais, tu t'es rapproché. On a tourné, on a dansé. J'étais tranquille, tout tournait. Je dansais, tu dansais. Dans ma tête, tout était tranquille, un peu alcoolisé. Paf, ça dérape, rap. Ça dérape, rap. Tu m'as fait un bisou. Un bisou dans le cou. Non mais ça va pas.
Oh ça va, c'était juste un bisou.
Je me décale d'un pas. Vexé tu me retiens. Tu me bloques les deux bras. Là derrière sur les reins. Je suis coincé. Je suis coincé. Impossible de bouger. Je suis coincé. J'essaye de me dégager, j'y arrive pas, non. Ce petit con me fait marron, moi qui étais grise qui dansais. Allez, move my body, je me sens pourri, faut qu'il me lâche. Il me lâche, lâche. Ce soir-là, on aurait dit qu'il s'était donné rendez-vous. Les relous à bisous, les je suis un gentil, les caresseux à tête de nœud, les t'es mignonne, t'as de beaux yeux, les aux mains caressantes, les allez, sois pas méchante, envie de partir loin, je comprenais rien, pour moi c'était grillé, je me suis barré. Pour les relous, un bisou dans le cou. Je suis la chochotte vierge qui affole leur verge. La féministe frustrée, la mal baisée. La salope en rue qui se déhanche à moitié nue. Et qui l'a bien cherché à se faire coincer. Oui, qui l'a bien cherché à se faire coincer. Le sale bisou de ce trouble fait qu'on avait pour au moins 3 grammes dans son purin. Une haleine à terrifier, un comprimé pour dentier. Ça n'est pas une excuse de déraper quand on abuse du rhum arrangé. Moi aussi j'en étais, je dansais à ce festival d'été. Dans ma tête tout était tranquille, un peu alcoolisé. Je dansais. Dans ma tête, tout était tranquille, un peu alcoolisé. Je suis vénère, il est vénard, ce petit connard. J'ai pas perdu un seul pétale sur le dance floor du festival. Et je move my body, je suis reparti. Je bouge mon boule, je bouge mon corps sur le dance floor. Je suis violette de colère. Qui veut m'effeuiller, gaffe au prochain que je repère. Qui vient danser collé serré. Je collerai un molar mémorable sous ses baskets équitables. Et s'il dérape, rap, j'y colle une baffe. Paf.
Et voilà, Corner Tripalium, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouvera le mois prochain. Mais avant ça, on va vous laisser les contacts de la CNT. Pour tout ce qui est... voilà, renseignements liés à vos problématiques, que ce soit sur le monde de dans l'emploi ou dans la vie de tous les jours. En fait, n'hésitez pas à passer un coup de fil. Vous pouvez nous laisser un message, parce qu'on ne sera pas forcément derrière, au 04 77 25 78 04. 77 25 78 04. Ou bien nous laisser un mail sur cnt42@cntf.org. Je redis. cnt42@cnt-6f.org. Voilà. À savoir que normalement on a des permes toutes les semaines, mais actuellement, bon bah la saison fait son temps, donc les permes sont suspendues. Mais en revanche, voilà, si vous nous contactez, on peut prendre rendez-vous avec vous à la Bourse du Travail ou ailleurs si ça arrange plus. Donc voilà. Actuellement, le groupe jeune, c'est pareil. Le groupe jeune est un peu en stand-by. Mais vous pouvez nous contacter via nos pages Facebook, nos pages Instagram, nous laisser des messages si vous avez besoin d'aide, si vous voulez des renseignements ou nous donner des informations. Et pareil, du coup, pour le groupe Femmes Libres.
Ouais, du coup, je prends le relais. Le groupe CND Femmes Libres, donc on est joignable sur tout ce qui est, s'il y a des besoins d'échanger ou de soutien sur les violences patriarcales, au travail ou chez soi. Et on a des permanences encore ce mois-ci, au mois de juin. Donc pour venir nous rencontrer et échanger sur le groupe, ça peut être ce mercredi qui vient, là, le 8, entre 10h et 12h, à la Bourse du Travail, donc au local CND. Et il y aura aussi une perme fin juin, le mardi 28 juin, entre 14h et 16h, toujours à la Bourse du Travail au local CND. On est joignable par ailleurs si... à n'importe quel moment par téléphone, pareil, il faut laisser un message au 06 21 70 60 67 ou nous laisser un mail à l'adresse de contact, donc cnt-8 femmes au pluriel libre au pluriel attaché -8 42 @riseup.net. Et donc, après, les permes sont suspendues cet été, mais on reste joignable sur, avec ses contacts. Donc, merci pour votre écoute. C'est la fin de cette émission. On se retrouve le mois prochain. Et merci,
merci
à
Axel,
ouais, merci Axel pour qui a fait la technique ce soir pour l'émission. À bientôt.
Salut, salut. Ciao.
Salut.